Vous êtes sur Easy French.
Salut, salut les amis.
Bonjour les copains.
Salut tout le monde.
Alors comment ça va aujourd'hui les filles?
Judith, tu veux commencer?
Ben ça va, un peu malade aujourd'hui, hein, pour ne pas dire covidée, mais ça va, des symptômes légers, j'ai le rhume et un peu de fièvre. Et toi Rita, comment ça va?
Bon, bah déjà, bon rétablissement à toi, on est désolé hein, de t'entendre comme ça. Moi, bah écoute, très fatiguée, mais très heureuse, comme vous le savez. J'ai des amis qui sont venus d'Allemagne me rendre visite, et ça faisait longtemps que je les avais pas vus, et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais surtout, j'ai adoré vous avoir chez moi le samedi dernier.
Ouais, c'est vrai que c'était super. Et d'ailleurs, ben voilà, on a la parfaite transition pour aborder le sujet dont nous allons parler dans ce podcast. Comment entretenir une amitié? Vaste, vaste sujet. Alors les filles, est-ce que vous vous souvenez pourquoi on a choisi ce sujet-là?
Alors en fait, moi je pense que... Tu avais préparé beaucoup de sujets pour le podcast, Judith, mais moi, je me souviens que celui-là, je ne sais pas s'il était dans la liste ou pas déjà, mais ça m'a beaucoup parlé en tout cas, parce que ayant beaucoup d'amis à l'étranger, c'est quand même toujours un peu sport de maintenir les amitiés, de les entretenir, non pas que l'amour n'y soit pas, mais que bah, il faut faire un effort pour le faire. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas en parler, sachant que nous, on vit notre amitié au quotidien.
C'est ça, pour nous c'est assez facile d'entretenir le lien parce qu'on travaille ensemble et on habite quand même assez proche. Donc on a beaucoup d'occasions pour se voir, pour se parler. Mais comme a dit Rita, c'est pas le cas avec tous nos amis. Donc Rita, elle, a des amis absolument partout. Judith et moi, peut-être pas partout, mais on a aussi des amis qui n'habitent pas forcément en France. Par exemple, j'ai des amis en Allemagne et toi Judith aussi, il me semble.
J'ai des amis en Allemagne, c'est vrai, oui.
Voilà, J'aime beaucoup. Dans d'autres pays, peut-être, je ne sais pas.
J'étais en train de réfléchir hein, quand on a préparé le sujet, et c'est vrai que je ne crois pas avoir beaucoup d'amis autour du monde. J'ai rencontré des gens que j'ai beaucoup appréciés, mais de là à les appeler des amis, je n'irai pas jusque-là.
Moi, je sais que j'ai des vrais amis, comme de la famille partout un peu. Mais une fois, je me suis posé la question, comme les enfants, je me suis lancée à un défi. J'ai pris la carte du monde, parce qu'il y en a des pays qu'on ne connaît pas beaucoup, qui sont loin, qu'on n'a pas encore visité. Et je me suis demandé si j'avais, si ce n'est des amis, des vrais amis proches, des connaissances au moins autour du monde. Et je me suis franchement rendu compte, allez, ça va faire la fille qui se la pète un peu, mais c'est vrai, j'ai des amis partout, mais vraiment partout, ou des gens que je connais partout.
Incroyable.
Même dans des petites îles perdues dans le Pacifique.
Waouh. Alors c'est quoi l'endroit le plus improbable où tu as des amis? Le plus éloigné de la France peut-être?
Kiribati. Oui, j'ai vécu avec quelqu'un en Australie qui vient des îles Kiribati. Et d'ailleurs, je me sentais bête quand elle m'a dit qu'elle venait de là-bas parce que je ne savais pas où ça se trouvait.
Et moi, je ne savais pas que ça existait.
Pareil.
Bah, pas pour très longtemps, malheureusement, parce qu'il y a la montée des eaux. Et ce sont des îles qui ont pris leur indépendance de la Grande-Bretagne il y a bien longtemps et qui sont au milieu de nulle part. Mais vraiment littéralement au milieu du Pacifique, loin même de Hawaï, de l'Amérique, loin de l'Australie et de l'Asie. Enfin, c'est incroyable.
Et elle s'appelle comment, ton amie de Kiribati?
Bah, elle a un nom français, parce que son mari est français, en fait, de Nouvelle-Calédonie. Donc, un nom français, un nom international, on va dire, elle s'appelle Sarah, mais je crois bien qu'elle avait un nom différent avant. Et d'ailleurs, c'était, enfin, une amie, c'est une dame d'un certain âge, hein. J'ai habité chez elle en étant en Australie au départ, et elle a un fils qui a plutôt mon âge, qui s'appelle James, voilà, rien d'incroyable, mais c'est des gens merveilleux, je leur dis bonjour d'ailleurs, si un jour ils m'entendent, ils m'écoutent.
Ouais, en tout cas, c'est vraiment incroyable, et donc Rita, toi, comment tu fais pour garder le lien avec tous ces gens?
Bon bah le lien en soi, si c'est parler, être en contact, souvent moi quand sur les réseaux sociaux, s'ils y sont, je vois une nouvelle, quelque chose qu'ils ont posté, ou si je pense simplement à eux, je me force mentalement à prendre le temps d'écrire un petit message pour dire coucou, je pense à vous. Parce que je pense sinon ça ne se fera pas, ou ça ne se ferait pas. Sinon, j'ai d'autres amis. Comme une amie ukrainienne à moi qui habite en Australie et une autre amie norvégienne, on s'assure de pouvoir faire un appel téléphonique ou sur WhatsApp ou autre réseau une fois toutes les deux semaines. Et on s'appelle, on prend même 5-10 minutes et on se raconte nos vies. Voilà.
Ah ouais, donc c'est vraiment quelque chose que vous avez décidé ensemble pour garder le contact. Vous avez décidé de vous appeler à une certaine fréquence.
Exactement.
Ouais. Ça, c'est vraiment une bonne idée, je pense. Parce que c'est vrai que les petits messages sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est bien pour garder le lien au quotidien, c'est vrai, mais ça ne remplace pas la conversation qu'on peut avoir par téléphone où on se raconte notre vie, on partage nos quotidiens. C'est comme ça qu'on arrive vraiment à rester proche des gens, je trouve.
Et puis surtout, si je peux ajouter quelque chose, je pense que ce n'est pas une critique du tout, mais tous on a envie d'apparaître sur notre plus beau jour sur les réseaux sociaux. Donc on partage souvent des jolies choses, les fêtes, les voyages. Et ça ne dit pas tout sur nous. Et je pense que de voir que ça, on a l'impression que tout va bien. Alors que si on écrit un petit message, on donne le temps à la personne de pouvoir raconter plus, voilà, et partager.
Mais si on n'arrive pas à s'appeler régulièrement, comment on fait ? Est-ce qu'on peut quand même garder le contact ? Est-ce que vraiment, si on ne s'appelle pas souvent, est-ce qu'on a l'impression que ça casse l'amitié ou que ça la fragilise ? Ou est-ce qu'on peut réussir quand même à se sentir proche de quelqu'un qu'on n'appelle pas souvent, à votre avis ?
Est-ce que ce serait pas peut-être aussi dépendant de la nature de l'amitié à la base? Il y a des amis avec qui on a besoin de beaucoup parler, de beaucoup échanger. Il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup de preuves d'attention et d'autres qui en ont besoin de moins. Je pense en particulier à un ami que j'ai qui a déménagé en Israël. C'est un de mes amis les plus proches. Et pour le coup, on se parle pas beaucoup, mais on sait, sans se le dire, qu'on est là l'un pour l'autre et on peut se parler peut-être une fois par mois, juste prendre des nouvelles et ça nous suffit en fait, on n'a pas besoin de plus. Peut-être que ça peut aussi dépendre de ça, de ce dont on a besoin dans l'amitié.
Je suis complètement d'accord avec toi sur la nature de l'amitié à la base et sur l'effort aussi qu'on y met tous ensemble. Il y a aussi quelque chose d'important, on en parlera peut-être plus tard, qui sont importants en amitié, qui font que ça dure, ce sont les sentiments de bienveillance et d'empathie. Et dès lors que l'on se dit « Ah, bah, la personne, elle a peut-être besoin de temps, elle est très occupée », et qu'on ne pense pas dès le départ que ça signifie qu'elle ne veut pas nous prioriser et qu'on n'est pas important, je pense qu'on comprend et on vit notre vie, on se fait de nouveaux amis, tout en gardant la mémoire des bons moments passés ensemble. Et c'est ce qui permet, le moment venu, quand on est ensemble et qu'on se retrouve, de rire, de partager des belles choses, voire de parler de choses plus tristes, mais toujours avec autant de bienveillance et d'amour, je pense. Après, c'est vrai que ce n'est pas forcément que les personnes sont méchantes, mais que des fois, elles ont des besoins plus importants de présence, etc. Comme tu disais, Judith, je suis d'accord.
Oui, c'est vrai que moi, j'ai des amis, j'ai l'impression que même si on ne se parle pas pendant 6 mois, si on se retrouve, c'est comme si on s'était quitté il y a très peu de temps et on a encore toutes ces choses en commun, on est encore proches, comme si rien n'avait changé en fait, comme si notre amitié était hors du temps et que c'était toujours là et qu'on pouvait revenir à l'époque où on se voyait tous les jours, comme ça, juste comme ça. C'est vraiment incroyable de se dire que malgré la distance, les amitiés peuvent perdurer comme ça. C'est assez magique, je trouve. Mais bon, la magie, ça suffit pas. Il y a aussi la vie réelle et c'est quand même important, je pense, et je suis sûre que vous serez d'accord, d'entretenir les amitiés. D'ailleurs, même quand on se voit très souvent ou même quand on travaille ensemble comme nous, ça suffit pas de travailler ensemble et de passer du temps ensemble, mais il faut encore que ce soit du temps de qualité aussi.
Entretenir l'amitié au présent, je pense qu'elle est même plus importante encore c'est plus important que de le faire quand on est à distance. Parce qu'à distance, on a une excuse, on va dire, quelque part. Qu'on est loin, tout simplement. Il y a une phrase que j'adore, que je le dis tout le temps en amitié comme en amour. Alors franchement, je ne sais plus de qui elle est. D'ailleurs, quand on tape sur Google, on trouve plein d'auteurs différents. vous m'excuserez, mais en tout cas, c'est une citation qui dit « La distance est à l'amour ce qu'est au feu le vent ». Il éteint les petits et ravive les grands.
Oh.
Donc quand c'est vraiment voilà, une belle nature d'amitié en général ou de l'amour réel et pur, la distance n'y fait rien. Bien au contraire. Et quand on est proche, au quotidien, on voit aussi les défauts des personnes, on peut s'agacer plus rapidement, ce qui est tout à fait normal. Hein. Et donc je pense que c'est encore plus important d'apporter beaucoup d'amour pour pouvoir équilibrer tout ça au quotidien. et de passer des moments hors stress, hors temps, comme a dit Hélène, tellement poétique, pour pouvoir se rappeler de ces moments-là plus que des engueulades, je crois. Non, Judith ?
C'est vrai qu'on prend le temps, nous, toutes les trois, de faire des activités qui soient totalement déconnectées du travail. Et on ne le fait pas simplement par envie, c'est des choses qui sont réfléchies avec vraiment l'intention derrière de construire notre amitié et de construire des moments agréables et des beaux souvenirs ensemble, toutes les trois, en faisant des activités à trois.
Dans les activités à trois, vous voulez donner des exemples ?
Manger des gâteaux.
Oui, et remanger des gâteaux. Et Judith ?
On fait du sport ensemble ? Non, c'est une blague.
J'étais là, hein.
Rita était genre quoi ? On m'a pas invitée.
Non, non, pas du tout. Je suis très heureuse que tu m'aies pas invitée. Ne m'invite jamais.
J'ai vu qu'elle essayait de nous inviter quand elle a dit « Ouais, avec mon abonnement à la salle de sport, je peux amener une personne le week-end. »
Non, le vendredi
et le samedi.
Le vendredi.
Ah, parce que j'ai retenu vendredi pour que quand elle m'appelle, je réponde pas.
Ouais, je l'ai vu venir là. Elle a voulu nous entraîner dans son truc.
Quality time, les amis. Quality time.
Ouais, et en tout cas, c'est vrai que c'est important d'avoir ces initiatives-là, d'organiser des choses ensemble. Et c'est Rita qui le fait beaucoup. Hein. Je tiens quand même à rendre à César ce qui est à César. C'est quand même Rita qui trouve souvent les bonnes idées, faire les escape games comme on a pu faire dans le 16e arrondissement, dans un hôtel particulier. Là, c'était cool quand même, c'était super. Et puis aussi, on ne fait pas seulement des moments comme ça ensemble pour s'amuser, mais aussi penser bien sûr aux anniversaires de chacune. C'est très important, ça n'y loupe pas pour chaque anniversaire. C'est les cadeaux, le gâteau, tout ça, même parfois des petites surprises.
Et c'est vrai que c'est devenu presque une tradition sacrée entre nous trois. Hein. Les anniversaires, ça ne rigole pas.
C'est vrai.
Non mais c'est tellement cool que j'ai envie d'avoir un autre anniversaire dans l'année.
On peut fêter les 6 mois aussi, hein. les années et demie.
Comme les enfants.
Bah oui.
Bah, les enfants, moi, ma fille, la première année, c'était tous les mois.
Tous les mois. Non, mais c'est très bien, ça. C'est pourquoi on arrête de faire ça, quoi.
Bon, on a encore plein de choses à dire. Hein. C'est un flux continu, mais on va quand même passer à la section suivante.
La minute culture.
Les filles, l'amitié interculturelle. Est-ce que ce sujet vous parle ?
Ah, moi, pas du tout.
Ouais, je le savais.
J'ai quelques anecdotes, mais c'est vrai que c'est pas... Je pense pas avoir vraiment beaucoup d'amis dans des pays très différents et avoir expérimenté beaucoup de chocs interculturels, en tout cas.
Après, des amitiés interculturelles, ça peut être même dans un même pays, hein, parce que la culture, c'est pas que le pays. Donc
c'est
on
vrai.
A surtout... Surtout à Paris, il y a énormément de cultures très, très diverses et on peut connaître des gens qui ont des cultures totalement différentes de la nôtre, bien qu'on ait même grandi dans le même pays.
Alors ça, c'est une remarque très pertinente.
Je suis pas peu fière. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir des amitiés interculturelles ? Qu'est-ce que ça peut nous donner comme...
Personnellement, j'ai des choses à dire, mais je pense que comme j'ai grandi, et déjà moi-même, et puis avec tous les gens autour, tout le temps dans l'interculturalité... Je ne suis pas forcément la mieux placée pour en parler parce que je ne vis pas ces chocs non plus de ouf. Je pense que le plus grand, on va dire, le plus grand gain que j'ai eu, c'est quand j'ai appris de nouvelles choses, par exemple, sur certains autres pays d'Asie que je connaissais, mais de manière superficielle. Et quand j'ai fait, par exemple, beaucoup d'amis du Laos, notamment. Et c'était assez drôle parce que ma première année en Chine, j'étais entourée de gens de partout, littéralement. Dans ma classe, il y avait quand même une majorité de Finlandais. Alors c'est en Europe, hein, ça semble pas très loin, et pourtant tellement de différences culturelles avec la France, et j'ai adoré déjà. Et puis j'habitais avec beaucoup de Laotiens au début, et après j'avais des amis arméniens, des amis un peu de partout, et on se retrouvait tous ensemble dans la joie et dans la bonne humeur. Mais c'est vrai que dans tous ces événements de rencontres, que ce soit même au restaurant, des choses aussi banales que ça ou en cours, on voit des différences et pourtant on se rapproche, et je trouve que c'est tellement important pour le savoir-vivre avec l'autre, en général. Parce que et puis, on apprend beaucoup plus sur soi en étant face à des gens qui sont différents.
C'est exactement ça, parce que c'est vrai qu'on en apprend sur soi, parce qu'on se rend compte, en fait, des différences. Et donc, on se dit « Ah, mais je ne savais pas que j'étais comme ça, en fait, parce que ça me paraissait normal d'être comme ça. » Quand on voit une personne qui agit différemment, ça nous renvoie à notre culturalité Je ne sais pas si ça peut se dire, mais ça nous renvoie à ce que nous, on est par différence avec les autres et ce qui pour nous paraît naturel et en fait culturel.
Et puis vous vous souvenez de la vidéo où on demandait aux Français s'ils étaient typiquement français ? Il y a beaucoup de gens, je pense que aussi dans notre manière d'être éduqués ici, comme on nous dit en France que bon, on peut être surtout français sans avoir forcément de parents français comme moi, ou que c'est quelque chose de très culturel, etc. Pourtant, on a eu toujours ce sentiment que les gens trouvaient ça un peu négatif de devoir être un peu le cliché, quoi. Ah non, 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 pas du tout. Et pourtant, quand ils expriment les choses, ils sont tellement typiques, tellement. Ouais. Enfin, moi, j'ai trouvé. Et je trouve ça tellement mignon parce que là, on accepte en fait, parce qu'on est face à l'autre, on se dit « bah je suis vraiment comme ça ».
C'est vrai. Bah, dans la vidéo aussi, tu sais, quand on demandait aux Français la différence qu'il y avait culturellement entre les Français et les Allemands, et il y a beaucoup de gens qui ont répondu qu'ils ne s'étaient jamais sentis aussi français et aussi latin. Et ça, c'était une expression qui était beaucoup revenue. Ils ne s'étaient jamais sentis aussi latin qu'en allant en Allemagne et en étant confronté à des Allemands. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, on se rend compte de qui on est quand on... On est confronté en fait aux autres aussi beaucoup, comme tu disais, Hélène.
Et est-ce que vous sauriez dire à quelqu'un qui est étranger, commencer d'être ami avec un Français ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut savoir quand on côtoie des Français et qu'on pourrait éventuellement s'en faire des amis ?
Il faut toujours leur amener de la bonne nourriture. Les Français adorent ça. Si tu veux te faire un ami, mais amène de la nourriture de chez toi, des bons gâteaux, des bonnes choses. Les Français sont quand même très friands. Même si on est très fiers de notre gastronomie nationale, pour certains un peu fermés là-dessus et tout. En général, les Français ont beaucoup voyagé et aiment goûter de nouvelles choses. Aiment tout critiquer, certes, mais quand c'est bon, ils le reconnaissent aussi. Et donc, si vous voulez gagner le cœur d'un ami français, amenez un gâteau.
C'est vrai, ça marche facilement, ça, ouais, ouais. Partager les bonnes choses avec les gens. Ouais. Les Français sont quand même assez ouverts, je dirais, sur les nourritures qu'ils ne connaissent pas. Donc, ouais, c'est une bonne idée.
C'est vrai ce que tu dis et ça me fait penser à une anecdote. J'ai un ami italien qui travaille avec moi à l'hôpital, qui est un de mes co-stagiaires et il vient d'Italie. Plus précisément de Sicile, où il a a priori un grand domaine avec plein d'oliviers et ils font de la récolte d'olives et ils fabriquent de l'huile d'olive. Ils ont environ, enfin, de ce que j'ai compris, ils font 1000 litres d'huile d'olive par an. Et il nous en a ramené. Il a demandé à sa famille de lui faire envoyer dans un petit paquet quelques litres d'huile d'olive de son domaine pour qu'on puisse le goûter. Et c'est vrai que tout le monde est devenu fan de Dario à ce moment-là.
Tu m'étonnes.
Mais voilà, c'est QFD.
Ouais, moi, j'ai pensé à un truc parce que je me suis beaucoup creusé la tête. J'ai pas forcément pensé aux choses les plus évidentes, mais je me suis plutôt mis à la place de quelqu'un qui connaît pas forcément les Français et qui va rencontrer des Français. Et j'avais envie de trouver quelque chose que je pourrais lui dire pour le prévenir un petit peu. Prépare-toi si tu veux te faire des amis français. J'ai l'impression que, je sais pas si c'est... Je pense pas bien sûr que ce soit que français, c'est certain que non, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est assez partagé ici, que les gens font beaucoup d'humour, parfois sarcastique, et aiment bien, comme on dit en France, mettre les gens en boîte. Se moquer un peu gentiment, taquiner. Et je me dis qu'il y a peut-être des gens qui font pas trop ça chez eux et qui peuvent être un peu gênés ou pas trop comprendre si on se moque d'eux ou si on les aime bien. Donc voilà, je me dis ça, c'est peut-être quelque chose à savoir.
C'est tellement vrai dans mon cas, je le fais tout le temps. Alors mes amis me pardonnent à chaque fois, mais je sais qu'avec mon amie norvégienne dont je parlais, maintenant elle me connaît parfaitement. Et c'est vrai qu'elle était mal à l'aise au départ. Elle ne comprenait pas si... Et surtout, j'ai une tête très sérieuse quand je fais la blague. Elle ne comprenait pas si je l'insultais ou je blaguais. Alors que je ne fais ça qu'avec les gens que j'aime bien. Toi, Judith, t'es pas d'accord avec ça ?
Si, si, et même, je trouve que c'est même un très bon signe quand une personne française commence à se moquer de vous, gentiment, bien sûr. C'est que vraiment, en fait, il commence à vous apprécier, il se sent à l'aise avec vous, et il y a peut-être moyen que vous commenciez une belle amitié.
On va passer à la suite, au sujet suivant.
J'ai capté.
Les filles, comment est-ce que vous définiriez l'expression idiomatique « faire ami-ami avec quelqu'un » ?
Faire ami-ami avec quelqu'un. Alors, j'ai peur de... En fait, quand tu poses les questions, je me remets énormément en question et je me dis peut-être que pendant tout ce temps, j'avais une mauvaise définition de l'expression dans ma tête.
Je me suis dit exactement la même chose pour cette expression. C'est incroyable.
Pour moi, faire ami-ami avec quelqu'un, c'est un peu comme... Faire du small talk, c'est apprendre à connaître quelqu'un un peu en superficialité. Voilà, c'est comme ça que je définirais cette expression, faire ami-ami avec quelqu'un. Ou alors, ça, il peut même y avoir une nuance, c'est parce qu'on attend quelque chose de la personne et que du coup, on va un peu, entre guillemets, alors c'est une autre expression, mais on va gratter l'amitié.
Très belle expression.
Pour entrer un peu dans le cercle d'amis de la personne et obtenir ce qu'on attend de cette personne. Voilà. Si par exemple Rita a fait un très bon gâteau au chocolat, qu'on n'est pas amis mais que j'ai très envie de goûter à ce gâteau au chocolat, je vais essayer de faire ami-ami avec elle pour avoir une part de gâteau au chocolat.
Alors, je suis complètement d'accord, j'ai eu l'impression également que j'avais mal compris, et en cherchant, parce que j'ai quand même regardé la définition, c'est bien ça, faire une amitié superficielle. Mais moi, ça a toujours été connoté négativement pour moi, exactement comme tu as décrit. Pourtant, dans les deux autres définitions, je ne voyais pas de choses négatives. Mais je comprenais qu'au-delà de la superficialité, comme tu disais, il y avait une intention derrière de s'approcher, de se rapprocher de la personne à des fins, je ne sais pas, de pouvoir recevoir quelque chose, un service. Ou... Souvent, on dit par exemple, oh, dans la société un peu haute, ils font un peu ami-ami avec les gens pour avoir des contacts et pouvoir réussir et avoir un job, par exemple, ou quelque chose. Et donc, faire ami-ami, c'est en réalité, un peu, enfin, c'est lié à tout sauf de l'amitié.
Oui.
On est tout sauf amis avec la personne.
C'est ça, c'est plutôt créer, comme tu dis, créer des contacts, faire un peu des mondanités ou dire des banalités pour.
Mais au-delà de ça, encore des banalités ou des mondanités, ou même le small talk, je ne pense pas que ça peut être négatif. Oui. Ça peut être pour passer le temps, pour discuter. Là, il y avait vraiment pour moi une intention un peu quand même négative de pouvoir arriver à ses fins. Mm-mm. Tout en utilisant et manipulant quelque part un petit peu la personne, hein, jouant sur les émotions. C'est l'avis que j'ai, mais après, je ne sais pas si c'est réellement la définition.
Si, si, il me semble que c'est ça, oui. C'est un peu profiter, créer une espèce d'amitié superficielle pour profiter de ce que la personne peut éventuellement nous apporter.
Et puis surtout, le gratter l'amitié, c'est en fait exactement la même chose, sauf que c'est du parler, du slang d'aujourd'hui, quoi, non ?
Ouais, c'est plus de l'argot,
L'argot, ouais. Mais j'adore gratter.
Gratter, ouais. Et comment on appelle les gens qui grattent l'amitié ?
Des gratteurs.
Des gratteurs. Mais les gratteurs, c'est ceux qui grattent tout aussi. Ça peut être justement la nourriture, l'argent,
non,
tout.
C'est vrai qu'on pourrait dire, mais alors c'est vraiment de l'argot, c'est un gratteur d'amitié.
Ouais. C'est pas très
positif. C'est vraiment pas beau maintenant que je le dis. C'est pas joli comme expression, n'apprenez pas ça les amis.
C'est horrible. Enfin, ils n'ont pas besoin de l'utiliser, mais de la comprendre.
Parce que si on vous le dit, ce serait bien que vous sachiez ce que ça veut dire.
Bon alors, on a bien répondu Hélène.
Ouais, c'est bon. C'était parfait, vraiment. On passe à la section d'après.
Au défi.
Défi, petit défi de la semaine. Quelle est la qualité, si vous deviez n'en citer qu'une seule, que vous appréciez le plus en amitié ?
La réponse à cette question, elle m'est venue assez spontanément, et c'est de très loin, la loyauté. Je crois que c'est quelque chose qu'on expérimente un peu au fil du temps, mais parfois, ça nous arrive de faire des bêtises, de faire des choses pas bien. Objectivement pas, ou des choses qui peuvent être perçues comme mauvaises, ou alors des choses où vraiment on a merdé, quoi. Et puis y a ces amis qui vont se dire ok, elle a merdé, et qui vont assez spontanément vous tourner le dos. Et puis il y a les vrais amis qui vont vous dire là t'as fait de la merde, mais je suis ton ami et je vais t'aider, on va réparer ta merde et je suis avec toi. Et ça, je trouve que c'est vraiment une des plus belles preuves d'amitié.
D'accord avec ça, la loyauté c'est mais number one toujours, parce que je pense que il y a bien sûr d'autres choses qui sont importantes. Hein. Moi, ce qui est très important pour moi quand je parle de loyauté, il faut pas confondre, ce n'est pas que la personne n'ait pas le courage de te dire les choses en face ou qu'elle soit honnête, bien au contraire, l'honnêteté est tout aussi importante, mais il faut que la personne, quand t'es pas là, moi j'estime, je suis très intransigeante là-dessus, c'est comme si tu y étais. S'il y a d'autres gens qui parlent mal de toi, ou la représentation de ton ami, parce que tu connais ses valeurs, tu sais qui c'est, et donc tu passes au-delà de tout ce qui pourrait gêner, je ne dis pas qu'il faut défendre la personne aveuglément, ce n'est pas ça, hein. Mais qu'on sait que quand la personne est là, personne n'oserait mal parler de toi.
Ouais. Moi, en tout cas, une qualité que j'apprécie beaucoup, c'est l'empathie et l'altruisme, parce que je trouve que c'est vrai qu'on est tous un peu... ce qui est normal, pris dans nos vies personnelles et dans nos soucis, dans dans les choses dont on doit s'occuper, les choses qu'on doit régler. Et parfois, il y a des gens qui peuvent facilement oublier de demander aux amis comment ils vont et de prendre des nouvelles et de demander, après avoir pris des nouvelles, et alors, ce que tu m'as dit la dernière fois, comment ça évolue et tout ça, de vraiment penser à l'autre et de s'intéresser à sa vie et de le montrer. Je pense que ça, c'est une très, très belle preuve d'amitié.
Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous envie de « Alors, comment ça va ?» dans les réseaux. Les réseaux sociaux, quand on a déjà des amis ou quand on veut s'en faire, sont assez faciles pour... Ils permettent facilement de créer des liens, mais pas forcément de les faire perdurer. Et donc, ce que tu dis là, c'est important. C'est de dire pas « Comment ça va ?» en disant « Bah, comment ça va ?» et j'attends que tu répondes « Oui, oui, bien. » et puis c'est tout. Si la personne dit « Bof », tu dis « Ah, d'accord. » et tu passes à autre chose. Non. Il faudrait prendre le temps de vraiment creuser, je pense.
Ça me fait penser à une anecdote qui est très récente. J'ai une de mes amies dont j'ai voulu prendre des nouvelles, exactement dans ce but, en plus de créer et faire perdurer un lien entre nous, et qui m'explique qu'au travail, ça ne se passe pas très bien. Et j'ai pas trop rebondi sur la question, parce que je me suis dit, oui, le travail, c'est chiant. J'ai pas creusé plus que ça. Et elle vient de me dire il y a quelques jours qu'elle était en burn-out et qu'elle venait d'être arrêtée. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais putain, j'aurais peut-être dû plus creuser quand elle m'a dit, au boulot, ça va pas, quoi, que c'était pas juste je m'emmerde ou j'ai un collègue que j'aime pas, quoi, que c'était peut-être plus compliqué que ça. Donc.
Je comprends. Après, il faut pas trop s'en vouloir. Bon, je sais qu'elle, quand elle était pas bien, peut-être que c'était une manière aussi de dire à l'aide, mais que la personne ne peut pas avoir forcément la force d'expliquer les choses plus dans sa condition. Mais aussi, toi, je ne sais pas comment s'est faite la conversation, mais il faut pas que tu t'en veuilles parce que ça peut tout à fait être que tu étais là pour dire bonjour, salut, et que tu étais occupée aussi, que tu as des choses dans ta vie qui se passent. Donc,
non, bien sûr, mais je m'en veux pas, mais c'est juste que je garde en tête qu'en fait, quand quelqu'un ouvre la porte et qu'il dit y a telle chose qui va pas forcément bien, il faut creuser un peu, quoi.
Oui, c'est vrai. Parce qu'on a tendance parfois à dire « Oh, ça va pas trop » ou « C'est pas top », mais on va rarement dire d'un coup comme ça « Ah, ça va pas du tout, je suis en crise ». C'est vrai qu'il faut plus que l'interlocuteur creuse un peu et donne l'impression que voilà, je suis là pour t'écouter, pour qu'on puisse vraiment s'ouvrir, quoi. La section d'après, on va râler.
Ouais, j'adore ça.
Je râle, tu râles, nous râlons. En amitié, est-ce qu'il y a des choses qui vous font râler? Je suis sûre que non, jamais.
Clairement, pas du tout. Jamais. Jamais, surtout moi. J'avais pensé à quelque chose et j'ai complètement oublié en vrai, donc je dirais peut-être autre chose.
Moi, j'ai épuisé tout au fond de ma mémoire et je me suis rappelée qu'en CM2, donc c'était la dernière année de primaire, je précise, si vous ne connaissez pas le système scolaire français, donc j'étais en CM2 et c'était la sortie du livre Harry Potter 6. Et on était tous fans d'Harry Potter dans mon groupe d'amis, c'était vraiment un gros sujet. Et j'avais une amie qui l'avait lu plus vite que tout le monde et qui m'avait dit la fin, qui m'avait révélé la fin du livre alors que j'avais pas fini.
Ça, c'est pas sympa.
Ouais, franchement. Et c'était il y a très, très longtemps. Hein, je vais pas mentir. Hein.
Quand tu t'en rappelles, t'es bien rancunière. Hein.
Je m'en rappelle des années après. Mais vraiment, je me souviens ce jour-là, je m'étais dit, mais c'est tellement nul de faire ça. Pourquoi elle a fait ça? Ça lui apporte quoi de me raconter la fin et de me gâcher mon plaisir comme ça? Et vraiment, c'était quelque chose que j'ai eu vraiment du mal à avaler.
Qu'est-ce qui m'agace en amitié? C'est léger, hein. Mais ce qui m'agace, c'est les gens qui ont un chat et qui envoient des photos de leur chat toute la journée.
J'adore ça.
Et t'es obligée de dire qu'est-ce qu'il est mignon parce que c'est ton ami, mais t'en as rien à foutre de leur chat.
Mais moi, j'adore. Moi, je dis aux gens de m'envoyer des photos de leur chat. Je demande même parfois des photos du chat.
Alors, c'est très simple. Je dis, tu mets en contact tes amis avec elle.
Mais en fait, je pense qu'il y a une part de moi qui est très jalouse parce que je meurs d'envie d'avoir un chat.
Ah.
Moi, ce qui pourrait m'agacer en amitié, après, quand c'est des vrais amis, c'est qu'on a passé ce cap et qu'on en a déjà parlé et que de toute façon, comme les gens m'apprécient avec mes défauts, j'apprécie mes amis aussi avec leurs défauts. Mais moi, j'adore. Un, la transparence, mais vraiment parler tout. Je suis comme ça, même de trop, je donne trop de détails. Et j'ai besoin qu'on se parle de tout. Et deux, la cohérence. Dans le sens où, si... Ça, c'est vrai au-delà de l'amitié, mais en amitié encore plus, parce que je tiens... Mes amis sont très, très hauts dans mon estime et qu'ils sont à fond dans mon cœur. Et j'aimerais vraiment que quand, par exemple, une personne... je sais pas, moi, s'attend à ce qu'on lui donne de l'attention, de l'écoute, ce genre d'amis qui pose beaucoup de questions sur ta vie. Je trouve que c'est sympa, mais des fois même des questions un peu intrusives. Et moi, je suis pas quelqu'un qui pose des questions tant qu'on m'en parle pas de choses. Et quand je pose une question et qu'on me regarde, genre, je réponds pas. Par contre, j'ai envie de te demander ta vie, ce qui se passe. Oh, en général, il y a quand même un déclassement de la personne. Après que je l'ai prévenu.
La curiosité malsaine.
Malsaine un peu. Donc, je sais pas si c'était vraiment des amis au départ ou pas, mais c'est quand même arrivé dans des cercles d'amis où il y a des gens. Je suis très à l'aise avec des gens proches à raconter ma vie, mais quand je sens que la personne demande beaucoup d'informations et qu'il n'y a pas de retour, je me dis... Il y a des gens comme ça, je crois, qui n'aiment pas paraître sous un mauvais jour ou paraître faible ou vulnérable. Par contre, ils sont les premiers à vouloir connaître tes problèmes, etc. Et ça m'énerve.
Ben moi, c'est marrant parce que ça me fait penser à quelque chose qui, moi, m'agace, mais qui est un peu l'inverse. C'est-à-dire que, généralement, les gens aiment bien me raconter leurs problèmes. Je pense que c'est aussi parce que ça me dérange pas du tout qu'on me raconte ses problèmes et je suis toujours là pour les écouter. Mais c'est vrai que quand c'est pas des vrais amis ou que c'est juste des connaissances ou des camarades, on va dire, qui me racontent leurs histoires et attendent de moi d'être disponible pour les écouter un peu à tout moment, etc. Je trouve ça un petit peu...
Parce qu'on déverse tout sur toi.
Un petit peu intrusif, oui. Mais du coup, dans l'autre sens, en fait. Et me demande pas forcément justement la question inverse. Et toi, alors, est-ce que t'as des soucis, etc. Quand c'est que dans un sens comme ça, généralement, je me dis, ben voilà, justement, cette personne n'est pas vraiment mon amie, mais plutôt une connaissance et quelqu'un qui a besoin d'un vase pour déverser ses soucis, quoi.
Mais sinon, bon, on ralote, on râle pas, là.
Ah, moi, j'étais sérieuse pour Harry Potter.
Hein. Moi, très sérieuse pour les chats aussi.
Donc, surtout, n'envoyez pas de photos de chats à Judith. On va passer à la section suivante.
Les ondes joyeuses.
Quelle est la plus belle chose qu'un ami ou une amie ait faite pour vous ? Ou une très belle chose ?
Quand j'allais quitter l'Australie, j'étais un peu en panique. J'avais trop de surpoids, j'avais mon vol, il ne fallait pas que je le rate.
De surpoids pour tes bagages ?
Les bagages, oui, pas moi. Merci de le préciser, le surpoids des bagages. J'avais passé une très belle soirée, mais très arrosée jusqu'à tard avec des amis. Donc, il fallait quand même que je sois assez responsable pour être à l'aéroport à temps. Et j'avais un ami brésilien qui habitait là-bas à l'époque, qui est maintenant marié là-bas avec sa petite femme australienne, etc. Et qui travaillait dans le bâtiment et qui devait travailler très, très tôt. Et on n'avait pas eu l'occasion de se dire au revoir. On avait passé pourtant des moments très sympas et on n'était pas sûr quand est-ce qu'on allait pouvoir se revoir au vu des distances qu'il y a entre l'Australie. Donc, pour moi, je ne savais pas que j'allais en Chine, donc je rentrais en Europe. Et donc, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que le matin tôt, j'étais fatiguée, en stress de me dire qu'est-ce qui va m'emmener, de trouver un taxi, les bagages, ce que j'allais payer ou pas. J'avais une très bonne amie aussi brésilienne qui avait essayé de fermer avec moi les bagages, qui avait gardé des affaires à moi pendant des années d'ailleurs chez elle, pour que je les récupère. Et là, je sors vraiment triste comme tout. Il pleuvait, je me souviens, la mort dans l'âme. Et qui est-ce que je vois arriver ? En courant et qui a lâché le boulot, il a fait une pause d'une heure pour venir me dire au revoir, mon ami. Et franchement, ça vient de me revenir, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai pensé à lui, à Gustavo. Mais ça m'a touchée, j'ai beaucoup pleuré, mais toutes les larmes de mon corps. Il était un peu la représentation de toute la belle période que j'avais passée là-bas, de tous ces amis-là qui avaient pris le temps de venir me dire au revoir. Lui n'avait pas pu pour des raisons personnelles et il avait quand même pensé à se dire « bon, je vais quand même dire au revoir à Rita ». Et ça, c'était vraiment cool. Voilà.
Wow. C'est trop mignon, vraiment.
Ça, c'est une super belle histoire, vraiment. C'est touchant et c'est parfois dans les petites attentions, juste être présent à des moments un peu clés comme ça, qui, j'imagine l'émotion que tu as dû ressentir.
Ouais, totalement. Ça me donne envie de verser ma petite larme.
Voilà. Et vous, les filles, alors ?
J'ai essayé de réfléchir à quelque chose, une chose ponctuelle qu'on ait faite pour moi. J'ai pas vraiment trouvé de choses comme ça, d'anecdotes similaires. Par contre, c'est vrai que à chaque fois que, quand on a préparé cet épisode autour de l'amitié, j'avais toujours cette amie en tête, Marion, qui est ma meilleure amie. Et je crois que la plus belle chose qu'elle ait faite pour moi, c'est d'avoir toujours été présente, de m'avoir jamais jugée, de m'avoir toujours acceptée comme j'étais, d'avoir été comme une sœur pour moi.
Ouais, c'est trop mignon. Et moi, du coup, bah, j'ai beaucoup réfléchi aussi. Et puis, j'ai pensé à une amie qui est une amie très proche, que je ne connais pas depuis très longtemps, mais qui est très, très proche. On se connaît depuis la fac. Et elle, elle est très franche et elle me dit toujours ce qu'elle pense quand je lui demande quelque chose. Elle me dit vraiment ce qu'elle pense. Elle met peut-être des gants, mais en tout cas, elle est sincère. Et c'est vrai que parfois, il y a des amis qui aiment bien plutôt dire ce qu'on a envie d'entendre et qui ne vont pas toujours nous dire la vérité. Et c'est vrai que parfois, on a besoin que quelqu'un nous dise « Non, là, tu déconnes » ou « Non, là, tu t'inventes des films, c'est pas du tout ça. » et voilà, nous disent même parfois, franchement, « Non, non, c'est n'importe quoi, là. Faut pas continuer à faire ça. » Ou voilà, qu'ils soient vraiment fermes et qu'ils nous aident un peu à changer, à évoluer en tant que personne, en fait, en étant vraiment sincère. Et je sais que c'est un risque à prendre parce qu'on peut se dire, si je dis à mon amie que je pense qu'elle est en train de faire n'importe quoi avec sa relation ou avec son boulot ou avec je sais pas quoi, elle va peut-être juste me dire, mais attends, t'es qui pour me dire ça? Je fais ce que je veux, je suis une adulte. Et donc, je trouve que c'est quand même un risque à prendre d'être sincère et de dire aux gens ce qu'on pense. Et c'est une preuve qu'on tient plus au bien-être de son amie que à ce que notre ami va penser de nous, en fait.
Ouais, t'as raison. Cette amitié, elle est précieuse, je pense. Préserve-la.
Ouais, ouais. On va passer à la dernière section.
Vos questions.
Bon, les amis, vous avez été assez nombreux à nous écrire déjà et à nous envoyer surtout des messages vocaux sur notre podcast. Et ça, c'est vraiment un plaisir de les écouter, de vous écouter. Donc, on voulait déjà prendre le temps de remercier chacun, chacune d'entre vous qui nous ont envoyé un message vocal. Donc, il y a Tobias, il y a Paola, il y a Bill, il y a Christina. Donc, on les a tous écoutés, bien évidemment, et ça nous a mis un beau sourire sur les lèvres. Ça nous a fait super, super plaisir.
Et si vous nous écoutez et que vous avez envie de nous envoyer un message vocal, allez sur easyfrench.fm, tout y est expliqué.
Et si je peux ajouter quelque chose, soyez courageux, n'hésitez pas à nous envoyer des messages en français. Et on ne vous jugera pas, bien au contraire, on est souvent fiers de vous entendre parler français.
Tout à fait, ça nous fait très très plaisir. Et il y a une personne, donc Bill, qui lui nous a envoyé un message en anglais parce que justement il a dit qu'il ne se sentait pas encore assez à l'aise pour le faire en français, mais qui nous a dit qu'il avait très envie de venir à Paris et de nous rencontrer, de prendre un café avec nous. Donc on aimerait lui dire que le jour où il sera à Paris, qu'il n'hésite pas à nous contacter parce que ça nous fait toujours plaisir de rencontrer des gens qui suivent Easy French dans la vraie vie. C'est une expérience vraiment... intense à chaque fois, émouvante. On a déjà rencontré pas mal de monde de cette façon-là. Est-ce que vous vous souvenez un peu de qui on a rencontré dernièrement?
David. D'ailleurs, si vous voulez entendre sa belle voix, il suffit de vous d'écouter l'épisode passé.
Ouais, on a rencontré David. On a rencontré, il y a longtemps maintenant, Lucas. Brésil.
C'est vrai que je l'oublie, Lucas, mais Lucas est devenu tellement un pote que j'ai oublié qu'on l'avait rencontré à notre premier...
Comme Patrick.
Patrick, bonjour ouais. Patrick.
Oui. Et même Josh.
Et Josh, ouais, on les avait rencontrés à notre premier event, notre seul d'ailleurs, à cause de la pandémie. On était à, je ne sais pas, 10 000 ou 20 000 followers. C'est incroyable, vraiment. Tous des amis maintenant.
Donc si vous voyagez à Paris, voilà, venez nous voir si vous le souhaitez, écrivez-nous et on essaye toujours de s'arranger pour qu'au moins une d'entre nous puisse prendre un café justement avec la personne et passer un petit moment comme ça.
Sur ce,
sur ces très belles paroles,
on vous dit
qu'on vous aime
et à la semaine prochaine.